remercie beaucoup pour votre invitation, ça me fait plaisir d'être au milieu de vous. Merci aussi pour votre accueil. C'est une joie pour moi de pouvoir découvrir d'autres communautés, d'autres manières de faire. C'est toujours un enrichissement. Et j'espère, je compte sur Dieu pour que mon message puisse aussi vous apporter quelque chose de profond de sa part. J'ai intitulé mon message « Jacob et sa compréhension de Dieu ». Nous sommes dans notre lecture dans Genèse 28, les versets 10 à 17. Genèse 28, je lis les versets 10 à 17. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que j'ai dit. Jacob se réveilla et dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Ce matin, par conséquent, je vous invite à porter un regard sur la vie de Jacob. Cet homme de Dieu est le dernier dans la lignée des trois grands patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il est mentionné dans Exode 3, quand Dieu rencontre et appelle Moïse au désert. Nous l'avons réentendu dans le psaume 103, il a fait connaître ses voies ou ses plans ou son dessein à Moïse. Moïse, Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob était alors mort et enterré depuis environ 500 ans. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob apparaît également, entre autres, trois fois dans les évangiles, deux fois aussi dans le livre des Actes et encore à quelques autres endroits. Ces diverses mentions rapportées dans le Nouveau Testament affirment toujours toutes la même chose, à savoir, elles se focalisent sur la même vérité communiquée à Moïse. Dieu a un plan de salut pour l'humanité entière. Dieu poursuit un dessein très précis, ou un plan très précis, dessein qui trouve son premier grand accomplissement dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, que nous venons de célébrer par la scène. Ce qui est particulièrement frappant chez Jacob, c'est l'accomplissement du dessein de Dieu dans sa vie et par conséquent aussi dans la vie de son peuple. Jacob est le type même de personnage qui accumule un grand éventail d'imperfections. Peut-être que vous le savez sans doute. Sa vie est parsemée de doutes, mais qui n'a pas de doutes? Sa vie est parsemée de frustrations, de peurs, parfois de très grandes peurs, mais aussi de mauvaises décisions. Ce qui frappe le plus, c'est de voir que Jacob ne comprend que très difficilement son appel. Il comprend que très difficilement ce que Dieu attend de lui. Il ne comprend pas très bien le sens que Dieu donne à sa vie et les plans que Dieu poursuit au travers de lui. Remarquons que le verset clé de toute son existence est celui de Genèse 28, verset 15, que je viens de lire, où Dieu lui promet « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. » Une promesse extraordinaire que tous nous aimerions entendre d'une manière très personnelle, privée, intime. Trois questions pour ce message ce matin. Comme Jacob, Dieu a-t-il un dessein tout particulier pour la vie de chacune et de chacun d'entre nous? Est-ce que nous le croyons? La deuxième question de ce message, nos vies s'inscrivent-elles vraiment dans un plan divin plus large que ce que nous avons le sentiment souvent de voir ou de vivre journellement? Et la troisième question, nos églises respectives s'inscrivent-elles encore dans le dessein de Dieu? Le premier point de mon message, je l'ai intitulé « Bien humain ». Jacob a traversé des temps difficiles dans sa vie, vous le savez, et nous ne pouvons pas le nier, c'est une réalité. Mais remarquons d'emblée que ce n'est pas de la faute à Dieu. Nous ne pouvons pas accuser Dieu dans toutes les difficultés qu'il traverse. Jacob semble ne pas avoir pu vraiment s'épanouir en raison de diverses mauvaises pensées, de diverses influences, de diverses actions qui, malheureusement, pour la plupart, ont pris racine très tôt dans les profondeurs de son jeune cœur. Prenons le temps de plonger nos regards sur l'enfance de Jacob. Jacob est le fruit d'une longue attente, dans le sens que Rebecca, sa maman, est stérile. Cette stérilité est une immense souffrance pour Rebecca, bien sûr, mais aussi pour Isaac, qui ne comprend pas lui non plus la pensée de Dieu. Pendant 20 ans, Rebecca est stérile. C'est énorme, 20 ans. Isaac supplie l'Éternel et à un certain moment, il leur accorde des enfants. Dieu répond dans Genèse 25, verset 21. Or, déjà dans le ventre de Rebecca, c'est la bagarre, au point qu'à son tour, elle consulte l'Éternel qui lui répond rapidement et clairement, et je trouve ça extraordinaire. Pour Rebecca, ça a dû être une expérience absolument formidable. Je ne sais pas combien de fois dans vos vies vous consultez Dieu et vous répond clairement et rapidement, comme ça, tac, puis des réponses extrêmement précises. Ce n'est pas si souvent, et Rebecca bénéficie de ça. C'est absolument génial. Genèse 25, verset 23. Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un des peuples sera plus fort que l'autre et le grand servira le petit. Rebecca, au travers de ce qu'elle entend, apprend beaucoup de choses. Jacob a-t-il su, dans son jeune âge, que Dieu parle? Est-ce que Rebecca lui a transmis cette dimension-là? A-t-il su que Dieu avait un plan pour sa vie? Je crois qu'on peut dire qu'on peut en douter. Nous ne le savons pas, mais je crois qu'on peut en douter. Dès son enfance, nous voyons un Jacob qui est quelque peu désorienté face à la vie. Sans doute parce que Rebecca le surprotège, ce qui n'est pas bon pour lui. Cette maman inculque en lui l'idée qu'il faut aider Dieu d'une manière ou d'une autre pour que ses promesses s'accomplissent. C'est ce que Rebecca a comme fausse croyance. Très proche, voire trop attaché à sa maman, de fausses croyances par conséquent s'installent à leur tour en lui. Jacob devient craintif au point de commencer à tromper, à mentir, à marchander. Et à sa place, ben je ne suis pas juge de sa vie, à sa place, je pense que personnellement, j'aurais sans doute fait la même chose. Donc ça nous rend humbles, ça me rend humble aussi. Car il a été comme pris en otage. Que pouvons-nous faire dans notre jeune âge contre l'influence, si elle n'est pas très saine, très bonne, de nos parents dans des fausses croyances ou autres? Oui, le contexte familial et son environnement, eh bien, l'ont fort influencé, Jacob. Et il a eu besoin de toute la grâce de Dieu, comme nous en avons besoin encore, pour être délié de tout ce qu'il l'a rendu, petit à petit, mois après mois, un être tordu. Du côté paternel, vous vous souvenez sans doute, Isaac préfère nettement son frère Ésaü. C'est extraordinaire que la Bible, que Dieu ait le courage de nous raconter tout ça. Parce qu'on dit, c'est pas trop des modèles. Et pourtant, Isaac avait un faible. Ce n'est pas très sain non plus. Il aimait nettement davantage Ésaü, qui est, pour Jacob, un peu un extraterrestre. Il est à l'opposé de lui. Ils n'ont rien en commun dans leurs aspirations, dans leur tempérament. Et inévitablement, l'un et l'autre prennent la distance, s'éloignent. Ce sont des faux jumeaux, mais ils ne représentent pas un modèle de faux jumeaux où ils ne peuvent rien faire sans l'un ou l'autre. C'est tout l'inverse. Et les parents, donc Isaac, Rebecca, ne semblent pas conscients de ce que petit à petit ils sont en train, comme ça, de poser dans leur cœur. Rebecca donc œuvre dans son coin, à sa manière. Jacob s'en est vite rendu compte, sans doute, mais il n'a rien fait pour contrer sa mère. D'abord, il dit que ça va pas marcher son plan, parce que lui, il n'est pas poilu, je sais pas si vous vous souvenez. Donc ça va pas marcher. Il dit pas, mais maman, faut jamais faire ça, on peut pas tromper papa. Non, lui, il se dit, non, mais ça va pas marcher ton truc. Donc il ne fait rien pour contester ce qui est en train de se passer. Il n'en a pas le courage, sans doute. Et on peut le comprendre, je l'ai dit avant. Ainsi, Jacob n'est pas vraiment Jacob, tant qu'il n'a pas rencontré son Créateur, tant qu'il n'a pas rencontré Dieu. Et quoiqu'il est très malin, parce que ça va devenir quelqu'un de très malin, il ne peut pas être non plus quelqu'un d'autre, malgré toutes ses magouilles familiales et malgré toutes les tromperies. Et Jacob mettra beaucoup de temps à devenir ce à quoi il a toujours été destiné, parce que Dieu, dès avant sa naissance, eh bien, avait un plan pour sa vie. Remarquons que tout ce que Jacob entreprend, eh bien, il le fait pour être quelqu'un. Il le fait pour exister, mais ça le conduit d'échec en échec. Dieu le rencontre 4 fois dans sa vie, et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et quand il le rencontre, c'est toujours à des moments cruciaux. Soulignons que jamais Jacob dit que ce n'est pas de sa faute, mais celle de ses parents. C'est de la faute à Laban plus tard, c'est de la faute à mon frère, c'est de la faute à mes épouses. Ça, on l'entend pas dans la bouche de Jacob, et c'est tant mieux. Alors qu'Adam, vous le souvenez, alors qu'il faute, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Jacob, lui, n'entre pas dans ce schéma. Sans doute qu'il sait qu'il y a des choses où il est vraiment responsable. Et nous contemplons un Dieu merveilleux au travers de sa vie, parce que sa grâce est immense pour lui, comme la grâce de Dieu est immense pour nous. Il conduit Jacob, étape par étape, à réaliser de manière précise tous ses plans, ou tous ses desseins, ou toutes ses voies. Ce sont des synonymes. Comme je l'ai dit, ce qui m'interpelle, c'est que Jacob ne s'en est pas vraiment rendu compte. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je veux dire par là qu'il ne semble pas avoir été en mesure, cet homme de Dieu, d'en profiter pleinement des actions de Dieu sur sa vie, dans sa vie. Nous le verrons tout à l'heure. Alors qu'il venait de vivre des retrouvailles extrêmement émouvantes, et c'est un exemple, avec son fils Joseph, qu'il croyait mort, et c'est quand même quelque chose de très fort, alors que lui et toute sa famille sont sauvés d'une mort certaine, d'une mort terrible, la famine, c'est horrible de mourir de faim. Il se trouve devant le Pharaon parce que Joseph lui présente son père, et il déclare au Pharaon en personne dans Genèse 47:9 un peu le bilan de sa vie. Il dit ceci: la durée de ma vie d'immigré est de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Elles n'ont pas atteint la durée de la vie de mes pères et ils se retirent. Et quand je lis ça, je me dis, mais c'est presque pas possible. Il n'a pas compris tout ce que Dieu avait fait au travers de lui, tout ce que Dieu était en train de construire au travers de sa vie. Apparemment, il semble pas avoir vraiment saisi. Mais est-ce que nous saisissons toujours, et c'est ma question, c'est celle qui m'interpelle le plus, est-ce que vous saisissez, est-ce que je saisis, qu'est-ce que Dieu est en train de faire au travers de ma vie, de vos vies respectives? Est-ce que nous le voyons, est-ce que nous en avons conscience? C'est une grande question. Jacob, ça y a passé un peu par-dessus. Vous imaginez que de cet homme sont nées les 12 tribus d'Israël. Ce n'est tout de même pas rien. Plus tard, le Fils de Dieu, Christ en personne, le mentionnera pour prouver au chef de son peuple que Dieu n'était pas le Dieu des morts, mais qu'il était le Dieu des vivants. C'est incroyable. Incroyable. Croyons-nous que Dieu accomplit de grandes choses aussi au travers de nous, chrétiens, au travers aussi de son Église que nous représentons. Le deuxième point, je l'ai intitulé « La transmission du divin ». Jacob, tout au long du premier quart de sa vie environ, ne connaît que très peu de Dieu. En tout cas, c'est ce que les textes semblent nous révéler. Ce premier constat m'a toujours surpris, puisqu'il a connu le très grand privilège de naître au cœur d'une famille de croyants, n'est-ce pas ? Qui non seulement connaissait Dieu, mais cette famille, Rebecca, Isaac, avait vécu des expériences avec lui, avait reçu des révélations de lui. Ainsi, en cherchant attentivement dans les textes de la Genèse, et sans doute de la Genèse en particulier, nous trouvons à cette époque-là que très peu de récits où Dieu et la foi semblent être au centre de la vie de famille. Alors que plus tard, ce sera vraiment une ordonnance divine incontournable. Si nous lisons dans Deutéronome 6, Dieu se révèle à Moïse et lui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Tout à coup, il y a cette ordonnance dans Deutéronome de Dieu qui dit « Mais Dieu doit être quelque chose absolument d'essentiel au centre de ta vie, au centre de la vie de l'ensemble du peuple. » Chez les patriarches, la foi semblait se vivre de manière très privée. Dieu se révélait tantôt à l'un, tantôt à l'autre, y compris aux épouses. Mais la notion de transmission n'était pas encore apparemment bien acquise. Dans le Nouveau Testament, Paul insistera, vous le savez, beaucoup dans 2 Timothée 2, par exemple, sur cette notion de transmettre la parole à des hommes fidèles capables de la transmettre à leur tour. Cette transmission est essentielle. Jacob ne semble pas en avoir bénéficié. En y réfléchissant bien, une observation s'impose, et vous comprenez bien, ce n'est pas un jugement. Je cherche, comme vous, dans les textes, Isaac semble avoir eu du mal à transmettre sa foi profonde et son expérience de Dieu à ses enfants. Et Rebecca, de même. Je crois que tous deux étaient appelés à partager leur révélation, d'abord en couple, puis en famille. Ils étaient appelés à s'en nourrir, ils étaient appelés à faire pleinement confiance au Seigneur, et ils ont en partie échoué, mais c'est aussi un encouragement pour nous, parce que nous aussi on échoue dans divers domaines de nos vies, où spirituellement on se culpabilise, et pourtant on voit que Dieu est à l'œuvre. Et ça, c'est un immense encouragement pour nous. Ils manquaient de communion, mais malgré le fait qu'ils vivent cela, remarquons que Dieu ne les lâche jamais. Un plat de lentilles est vendu et non offert par amour à son frère. Jacob aurait pu lui dire, mais écoute, mais serre-toi, mange. Non, non, il vend le plat de lentilles. Une bénédiction est usurpée, un papa est trompé sur les conseils d'une épouse. On se dit, mais quelle famille? Quelle famille? Et Christ va mentionner, eh bien, Abraham, Isaac et Jacob. Donc ces vies-là, c'est encourageant, parce que Dieu fait au-delà de ce que nous, nous n'arrivons pas à faire. Alors Jacob, vous le savez, doit fuir. À partir de là, le voilà livré à lui-même. Et surtout, le voilà appelé à vivre son indépendance. Si on réfléchit bien, il doit faire là ses propres choix. C'est pratiquement le début de sa vraie vie pour Jacob. Et Dieu voulant, eh bien, il va le rencontrer. C'est bien au cours d'un voyage terrifiant que Jacob voit sa vie spirituelle prendre naissance. Je dis spirituelle, mais je dirais même sa vie toute court. Dieu, en se révélant, eh bien, ici pour la première fois à Jacob, va donner sens à sa vie, va commencer à lui faire comprendre qu'il ne vit pas tout seul, il ne vit pas que pour lui. Jacob va commencer à vivre et il va commencer à se détordre, parce qu'il était quand même assez tordu. Mais tout n'était pas de sa faute, hein, nous sommes, je crois, bien d'accord. Et nous vivons dans une société, nous le savons aujourd'hui, très individualiste. Mais chose formidable, Dieu le sait. Les gens, il y a du bon en cela, ne se contentent plus de vivre les histoires des autres, les récits des autres. On peut témoigner, des gens vont trouver ça formidable, mais ils vont dire, alors moi j'aimerais vivre ça. Ce que tu as vécu, c'est super, mais moi j'aimerais aussi le vivre. Et ça, c'est quelque chose de fort dans notre société. Les gens veulent expérimenter, ils veulent toucher, ils veulent voir, ils veulent sentir si Dieu, c'est vrai. Et si c'est vrai, et si eux-mêmes passent par diverses expériences, là on aura des gens qui sont des vrais témoins, des gens convaincus. En y regardant de près, tous les personnages bibliques, et je ne vois pas d'exception, ont goûté tôt ou tard, d'une manière forte et personnalisée à Dieu. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et posons-nous la question, revenons dans nos souvenirs, parce que parfois on oublie quelque peu, à quel moment Dieu nous a rencontrés, à quel moment Dieu nous a parlé, nous a touchés, est venu vers nous. Jacob fait partie de ces personnages, en plein désarroi, peu enclin au voyage, puisqu'il était souvent sous la tente vers sa maman, et encore moins enclin à l'aventure, ça devait être quelqu'un qui était terrorisé que de fuir la maison. Il se trouve seul, et je pense qu'il a été seul comme rarement on peut être seul. Aujourd'hui, je pense qu'on se dirait, mais il devait être au bord du suicide. Tant ça devait être une immense panique. Il est confronté à sa première nuit, ou peut-être, on ne sait pas combien de nuits il a-t-il passé, mais sans doute sa première nuit à la belle étoile. Dieu n'attend pas. Il se révèle à lui, Genèse 28, 10 à 17, c'est les versets qu'on a lus. Il se révèle à lui et Jacob est complètement bouleversé. Il ne s'attendait pas du tout, mais vraiment pas du tout à cela. Il n'avait sans doute dans sa vie jamais pensé à Dieu. Il avait pensé à piquer des trucs à son frère, ça sans doute. Mais à Dieu, pas beaucoup, dans son jeune âge, son adolescence, son début de vie d'adulte. Il n'avait jamais imaginé que Dieu s'occupait de lui, allait faire quelque chose avec lui et pour lui. Il n'avait jamais imaginé que Dieu pouvait le conduire quelque part et qu'il pouvait, au travers de sa vie, travailler au point que ses plans se réalisent. Ça, Jacob ne l'avait jamais imaginé. Et je pense que nous lui ressemblons dans ce sens-là. Nous peinons à imaginer que Dieu, au travers de chacune et chacun d'entre nous, Dieu fait, réalise des choses. en vue de son plan global. Donc, ce que vit Jacob ici est aussi fort que ce que Paul a vécu sur le chemin de Damas. Il a vécu là un tsunami. Et je pense que c'est en partie ce qui manque au christianisme actuellement, ces authentiques rencontres. Je crois que nous sommes appelés à demander à Dieu tout à nouveau qu'il nous rencontre, qu'il vienne à notre rencontre. Dans Genèse 31:3, alors que Dieu juge que Jacob en a fini de désapprendre avec Laban, donc je vais un petit peu plus loin dans son histoire, qui lui aussi était très tordu, ça devait être vraiment un peu un signe de famille, et bien après bien des années, pour la seconde fois, il se révèle à lui et l'invite à rentrer à la maison. Jacob prend conscience que le Dieu de ses pères n'est pas présent seulement à quelques endroits qu'il faudrait chercher ici ou là, mais que Dieu est présent partout avec bienveillance et qu'il est présent continuellement dans sa vie. Cette deuxième rencontre va marquer Jacob dans ce sens-là. À quel moment notre vie avec Dieu a-t-elle réellement commencé ? Je crois que c'est des questions importantes à tout âge de se poser. À quel moment Dieu nous a-t-il rencontrés ? Et plusieurs fois, nous avons besoin de ces rencontres pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'il fait au travers de nous. Ça nous encourage. Nous pouvons dire, sans nous tromper, que pour Jacob, sa vraie vie a commencé lors de sa première rencontre, donc lors de sa fuite, alors qu'il touchait le fond, qu'il était au plus bas. Il voit cette échelle. Et cette première expérience lui a tiré ces quelques mots. Assurément, Dieu est ici, et moi je ne le savais pas. Moi je ne le savais pas. Au retour, une autre rencontre l'attend. Il est riche, très riche. Il est accompagné de nombreux serviteurs et servantes. Il a une grande famille. Ça devait quand même le rassurer. Il devait se souvenir qu'est-ce qu'il avait quand il était allé dans l'autre sens, dans sa fuite. Néanmoins, il a peur d'être massacré par son frère, Jacob. Et là, il y a trois choses qui émergent tout à coup dans sa vie. Il sait ces trois choses, à savoir qu'il a commis le mal et qu'il a de bonnes raisons d'avoir peur, parce qu'il ne sait pas si son frère Ésaü lui en veut encore. Il ne sait pas, lui, si sa vie a pris une certaine ampleur, si lui aussi a une certaine richesse. Il ne sait pas, peut-être qu'il vit dans la misère. Tellement de questions qui ont dû surgir à ce moment-là et de culpabilité. Et Dieu est en train de le guérir. Il a très peur parce qu'il sait qu'il a péché. Deuxième chose, c'est qu'il est seul malgré ses serviteurs, ses servantes, son bétail qui est très nombreux. Il est riche et en même temps il a rien. Et il sait, Jacob, tout à coup que là, au fond, malgré tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, il est seul. Il est pratiquement autant seul que quand il fuyait. Et la troisième chose, c'est qu'il prend conscience que sans Dieu, eh bien, il est perdu. Il est au fond tout aussi perdu qu'avant. Alors cet homme tente de mettre ses bien-aimés à l'abri. Ce n'est pas là de la magouille, c'est de la sagesse, de la prudence. Il les met de l'autre côté du torrent, puis il se retire seul à l'écart, où il n'y a aucun regard, où il n'y a aucun dérangement possible, et là, il cherche à rencontrer Dieu. Il cherche à prier. Genèse 32. Là commence un combat, il y a un mystère dans ce combat, une lutte qui va durer toute la nuit. Et Jacob lutte vraiment avec Dieu. Ce qui l'habite, ce n'est plus de tricher, ce n'est plus d'obtenir quelque chose par magouille, c'est de se confronter à Dieu et d'obtenir sa bénédiction. Je vous l'ai dit avant, c'est parce qu'il se sent seul, il se sent sale et il sent qu'il est perdu, qu'il n'a aucune chance sans Dieu. Et là, il réclame la bénédiction de Dieu. Il ne la vole pas, mais il la veut vraiment. Et apparemment, ça plaît à Dieu, cette lutte, parce qu'il va le bénir. Jacob ne peut plus poursuivre sa route à ce stade-là tout seul. Alors, c'est très beau parce que Jacob va gagner. Dieu aurait bien sûr pu triompher, nous le savons. C'est un petit peu comme un adulte qui joue avec un enfant de 2 ans puis qui lui fait croire qu'il a gagné et l'enfant est certain qu'il a effectivement gagné. Mais l'adulte sait qu'il l'a laissé gagner. Et Dieu joue avec cet amour vis-à-vis de Jacob, il le laisse gagner et il lui dit « Ton nom sera un autre nom. À partir de maintenant, tu seras appelé Israël. » Et puis pour lui laisser un signe, sans doute pour qu'il se rappelle, eh bien on sait que Dieu le touche, l'ange le touche à la hanche et que Jacob à partir de là va boiter. C'est peut-être aussi une manière de dire à Jacob, maintenant tu vas commencer à partager ce que tu vis. Tu vas pas garder ça encore longtemps pour toi. Parce qu'on imagine que sa famille, ses épouses, ses enfants qui le voient venir et qui boitent ont quand même dû lui poser de sérieuses questions. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dans le torrent? Qu'est-ce que t'as fait? Et peut-être que là, Dieu est en train de lui dire, Jacob, maintenant partage ce que tu vis avec moi. Je pense que c'est important. À partir de cette nuit particulière, Jacob entre dans sa destinée, il entre dans le dessein de Dieu pour sa vie, et Jacob entre dans le dessein de Dieu pour la vie de son peuple. Il devient partenaire. Je conclue et je rappelle tout d'abord les 3 questions que j'ai posées au départ. J'espère que diverses réponses émergent. Comme pour Jacob, Dieu a-t-il un dessein ou un plan tout particulier pour la vie de chacune et de chacun d'entre nous? Est-ce que nous y croyons ce matin? Eh bien, je réponds oui, c'est certain. Combien même, comme Jacob, il y a beaucoup de choses qui nous échappent et il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Mais il faut y croire. Nos vies s'inscrivent-elles dans un plan divin plus large que ce que nous avons le sentiment de voir, que ce que nous avons le sentiment de percevoir ou de vivre journellement? Oui, c'est certain. Même si nous n'avons pas le sentiment des grands chrétiens, des grands témoins, des Billy Graham ou autres, ça n'a pas d'importance. Dieu travaille au travers de nous et c'est extrêmement encourageant. S'il a pu le faire pour Jacob, en Christ il le fait au travers de nous. Troisièmement, j'avais demandé, mais nos églises respectives s'inscrivent-elles encore dans le dessein de Dieu ? Ce n'est pas si simple de vivre l'Église. Ce n'est pas si simple de croire en un renouvellement. Vous le savez, même à La Rochette, alors qu'il y a du monde, ce n'est pas si simple. Mais oui, plus que jamais, l'Église est dans le cœur de Dieu et il va nous aider. Toute conversion est un miracle parce que c'est d'abord le fruit d'une action divine. Et c'est ensuite un changement de vie en profondeur, comme Jacob a été changé en profondeur. Comme dans la vie de Jacob, il peut y avoir bien des épisodes. Je ne vous connais pas, mais il y a des doutes, il y a des souffrances, des frustrations, des regrets, évidemment. Mais Dieu est là et il accomplit ses plans et c'est quelque chose de merveilleux. Il me semble que nous pouvons retenir 4 interpellations pour ce matin. Bien des interventions de Dieu sont rapportées dans la vie d'Isaac, puis de Jacob, de leurs épouses. Or, dans ces familles, chacun semble vivre sa foi à titre très individuel. Ça peut surprendre, mais ça semble quand même être le constat, et on voit que c'est très dommageable. Eh bien, le premier point qu'il nous faut retenir, c'est que nous sommes appelés, comme dans Deutéronome 6 nous est rappelé, c'est de transmettre, de témoigner, de dire ce que nous vivons avec Dieu. Deuxième chose, croire que les petites distances, les petites jalousies cachées, les petites tromperies, les petits arrangements, etc., eh bien, ont un impact, qu'on le veuille ou non, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, etc. Et nous sommes appelés, non pas à culpabiliser après, mais à vivre une vie qui est en ordre avec Dieu, à renoncer au péché et à croire que là où ça semble sans issue, que Dieu va s'occuper des choses et intervenir. Troisièmement, Jacob n'avait jamais imaginé que Dieu pouvait le conduire quelque part. et encore moins que sa petite vie de terrien, de magouilleur en partie, s'inscrivait dans un plan de salut infiniment plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. Et je crois que nos vies ont beaucoup plus de valeur et d'importance que ce que nous pouvons imaginer en qualité de chrétien. Ayant foi, malgré qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, marchant vraiment par la foi, ayant confiance. Quatrièmement, ce que vit Jacob est très fort. Et je pense, comme je l'ai dit, que c'est en partie ce qui manque sans doute au christianisme. Que nous puissions ce matin être encouragés d'avoir soif de Dieu et de ne pas avoir peur, quel que soit notre âge, de vivre diverses rencontres. J'ai soif, non pas tant de voir toujours des miracles pour me prouver que Dieu existe, j'en ai pas besoin, nous n'avons pas besoin de cela, mais nous avons besoin de rencontres. Nous avons besoin de ce corps à corps avec Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu, ayant soif de Dieu, comme je l'ai dit, mais vraiment à tout âge. Et finalement, Dieu poursuit son plan, Christ reviendra, nous en sommes certains, en attendant. Dieu cherche des hommes et des femmes prêtes à le servir. Hommes et femmes courageux, parce qu'il faut du courage aujourd'hui, qui ont soif de rencontre, soif de recevoir des directives célestes et soif aussi d'encouragement. Notre région a besoin du Christ, nos églises ont besoin d'être renouvelées, de grandir, et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à aller de l'avant. Alors vous puissiez être bénis au travers de ces paroles et que Dieu vraiment vous accompagne et vous aide comme Jacob à vivre ce que vous avez à vivre et qu'il puisse vous libérer si dans vos vies il y a des regrets, si dans vos vies il y a des choses où vous dites c'est vrai, j'aurais peut-être dû faire autrement, il n'est jamais trop tard et je vous invite à la prière. Seigneur, si tu es un Dieu vivant, c'est parce que tu désires vraiment que ton dessein, que tes plans s'accomplissent dans nos vies et dans la vie de ton Église, épouse, ici-bas sur la terre. Nous savons qu'un jour, Seigneur Jésus, tu reviendras. Nous savons que c'est une certitude, nous le savons par la foi, nous le savons au plus profond de notre cœur. Mais ce que nous ne savons pas, comme Jacob, dans la plupart des cas et dans la plupart du temps, c'est que tu nous utilises, c'est que tu as un plan, un dessein aussi pour nos vies personnelles. Et nous te prions, Seigneur, pour que tout à nouveau tu viennes nous rencontrer, tu nous permettes de vivre des expériences fortes, pour que nous puissions aussi en témoigner à d'autres, que nous puissions transmettre, Seigneur, qui tu es, ce que tu fais, et que ton Église, Seigneur, puisse vraiment tout à nouveau être renouvelée, grandir, croître, et Seigneur, te plaire. Donne-nous de pouvoir lutter avec toi, non contre toi, mais avec toi. Seigneur, nous voulons vraiment te demander cette grâce. Et je te prie ici, Seigneur, pour l'Église ici, la chapelle de l'espoir, en te demandant de les bénir, de les accompagner, de les fortifier. Et Seigneur, accomplis tes plans, tes desseins sur cette Église. En Christ. Amen.